9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. L'armée russe progresse en Ukraine, mais pas aussi vite qu'elle aurait voulu. Que s'est-il passé et que risque-t-il de se passer? Cédric Mas est historien militaire, il va nous l'expliquer. Et Emmanuel Macron est désormais candidat à sa réélection. J'ai donc invité un de ses historiographes, l'auteur de bande dessinée Mathieu Sapin, qui raconte dans un album les 12 voyages présidentiels qu'il a effectués avec lui. Et l'on terminera l'émission avec une chanteuse, c'est Fishback, qui sort son deuxième album. Il va y avoir de la disco et de la guitare électrique.
Europe 1.
Cédric Mas, bonjour.
Bonjour.
En tant qu'historien militaire, vous suivez avec beaucoup d'attention l'armée russe depuis son intervention en Syrie en 2015. C'était la première fois qu'elle sortait des frontières de l'ancienne Union soviétique depuis l'Afghanistan. Aujourd'hui, 10e jour de guerre en Ukraine. Est-ce que l'invasion du pays se déroule comme Vladimir Poutine le voulait ?
Alors, elle ne se déroule pas comme il l'escomptait lorsqu'il a tenté son coup de poker de faire s'effondrer le régime ukrainien par quelques opérations et une attaque massive de tous les côtés en même temps que les actions habituelles pour acquérir la supériorité aérienne. La progression sol a été immédiate de tous les côtés, depuis l'Ukraine, depuis le Donbass, depuis l'Est à Kharkov, soumis jusqu'au, évidemment, depuis le Bélarus vers le nord de Kiev. Là, ça a échoué. Maintenant, on voit se déployer comme une espèce de régularisation, un retour vers les méthodologies plus classiques, avec quand même, il faut être très attentif à cela, des éléments de progression, des secteurs où la progression reste encore importante. Je pense vers la façade est de Kiev, par exemple, ou dans le sud, où il y a encore eu des progressions assez conséquentes, mais qui sont de plus en plus sur des secteurs de plus en plus réduits. Et notamment la masse principale, l'effort principal sur la capitale depuis le Bélarus est aujourd'hui complètement arrêté pour des raisons que nous ignorons.
Et comment expliquez-vous la résistance des Ukrainiens ?
Alors, les Ukrainiens ont bénéficié du renseignement occidental, donc ils étaient parfaitement au courant, ils s'y sont préparés. Il faut savoir que ce sont deux pays qui s'affrontent depuis 2014, donc ce n'est qu'une étape supplémentaire, cette invasion, dans un conflit qui dure depuis maintenant plus de 7 ans. Donc les forces ukrainiennes se sont beaucoup préparées à faire face à l'armée russe, notamment avec le soutien de nos occidentaux. Ils ont dispersé leurs éléments aériens et qui leur permettent d'échapper à la première vague de frappe par missile de croisière qui était prévisible et qui a été effectuée. Ils ont également positionné des forces spéciales à proximité des aéroports autour de Kiev. Là, je pense qu'il y a eu un enjeu, un apport clé du renseignement occidental et américain qui avait parfaitement vu les projets et les plans d'opération d'invasion de Poutine.
L'armée russe semble moins impressionnante qu'elle voudrait le faire croire, non ?
Alors, il faut savoir de quelle armée russe on parle, parce qu'il y a une armée russe, je pourrais dire, à plusieurs vitesses. Vous avez des forces d'élite qu'il faut impérativement craindre et respecter, mais qui sont suremployées aujourd'hui, donc qui risquent de s'exposer à des pertes plus importantes. Et vous avez les gros bataillons, parce que quand Vladimir Poutine souhaite envahir de vive force l'Ukraine, il est obligé de rassembler une masse considérable d'effectifs. Et alors l'armée russe n'a pas les moyens d'avoir 150 000 hommes d'élite ou 150 000 hommes équipés de matériel de dernier cri. Et c'est comme ça que nous voyons des conscrits qui sont employés à l'extérieur des frontières de la Russie, hein, des conscrits qui font leur service militaire d'un an en Russie et qui sont encore équipés de vieux matériels qui datent de l'époque du pacte de Varsovie.
Et on dit que les Russes aujourd'hui sont faciles à écouter, qu'ils utilisent encore des talkie-walkie et des téléphones portables.
Eh bien, comme je vous le disais, les éléments, les matériels dernier cri de communication, qui n'ont jamais été un élément fort de l'armée russe, hein, même en Syrie, alors qu'il n'y avait juste l'équivalent d'une brigade qui était projetée, eh bien, on arrivait à les écouter. Eh bien, là, en plus, quand il s'agit d'unités, je dirais, de seconde ligne, d'unités de conscrits, eh bien, là, pour le coup, ils utilisent en effet du matériel civil. Ce n'est pas la seule faiblesse de l'armée russe. Vous avez aussi un commandement qui n'est pas très compétent et une corruption endémique et généralisée qui fait que les chefs se méfient même de leurs propres hommes, ce qui explique qu'ils sont obligés de s'engager sur le front. Et nous avons un taux de mort parmi les officiers supérieurs, y compris des généraux, qui est quand même très important pour une semaine de combat. On compte 2 ou 3 officiers généraux qui sont tués lors des combats parce qu'ils sont obligés de s'engager très près de leurs forces pour s'assurer que leurs ordres sont bien respectés.
Et alors il y a un certain nombre de villes stratégiques qui ne sont pas encore tombées aux mains des Russes. Est-ce que vous pensez, comme d'autres, que les Russes ont retenu leur coup au départ ?
Alors, au début, oui, c'est évident. Les frappes de missiles de croisière ont été inférieures. On est à peu près à 300 missiles lancés sur deux jours, les deux premiers jours. Et ils n'ont pas utilisé, parce que nous avons parlé tout à l'heure, Frédéric, des faiblesses de l'armée russe, mais ils ont une force. C'est leur artillerie tactique qui peut tirer et détruire complètement des unités et des zones urbaines à 30 ou 40 km de distance. Cette artillerie que l'on voit avec les lance-roquettes multiples, avec des armes horribles, hein, d'ailleurs thermobariques, ou des canons très lourds surblindés. Eh bien, ils ne l'ont pas encore utilisé, mais ils ont commencé, ils sont en train de le faire depuis plusieurs jours, parce qu'ils sont revenus vers leurs fondamentaux classiques, c'est-à-dire qu'on risque d'assister, de voir une nouvelle guerre des villes se développer comme en Syrie. Vous avez plusieurs villes qui sont encerclées et bombardées avec un bilan humain parmi les civils nécessairement très lourd, parce que quand on frappe des zones urbanisées, les pertes sont malheureusement en majorité des gens qui n'ont rien demandé au conflit.
Est-ce que ça va être tenable pour Vladimir Poutine? Si vous nous dites qu'une partie des bataillons sont des conscrits, est-ce qu'ils vont vouloir faire cette guerre-là?
Alors, quand vous êtes soldat, vous n'avez pas nécessairement le choix de dire non aux ordres, mais vous avez d'autres manières de refuser, de montrer que vous êtes en opposition à un combat, et notamment en combattant avec le moins d'initiative possible. Lorsque vous êtes au contact d'une force ennemie, il faut faire preuve d'initiative, il faut que le moral tienne. C'est en effet un des sujets. Vous avez un autre sujet qui est la logistique et les réserves, les stocks de ravitaillement en munitions. L'emploi de 150 000 hommes avec les méthodes telles qui sont classiquement utilisées par l'armée russe, et ça explique aussi leur prétendue pseudo-retenue, c'est qu'ils n'ont peut-être pas les stocks de munitions pour faire les mêmes amplitudes de bombardement qu'ils ont pu faire en Tchétchénie sur le nombre d'armées qu'ils ont déployées. Donc combien de temps leurs stocks de munitions leur permettront de continuer à soutenir leurs unités? C'est un autre point. Enfin, pour savoir si c'est tenable, il faut aussi regarder la météo. Il y a une vague de gel et de froid qui va s'étendre sur l'Ukraine dans les prochains jours. Ça avantage l'attaque, donc ça va avantager le camp qui a l'initiative et qui a besoin d'envoyer ses blindés en dehors des routes. Et donc pour les rendre moins vulnérables, par exemple aux contre-attaques ou aux embuscades des Ukrainiens. Donc ça va avantager les Russes. Mais dès que la saison des boues et le dégel se mettra en place, les Ukrainiens redeviendront avantagés, sauf s'ils sont eux-mêmes en contre-offensive et qu'ils ont au moins besoin eux aussi de manœuvrer leurs unités blindées qu'ils ont conservées en réserve. Les Ukrainiens n'ont pas engagé toutes leurs réserves aujourd'hui.
On fait une pause, Cédric Mas, et on se retrouve tout de suite après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Cédric Mas est historien militaire, il est en direct avec nous ce matin pour parler de la guerre en Ukraine. Les troupes d'élite, vous en avez parlé, Cédric Mas. Les chars, est-ce que les Russes ont utilisé tous leurs chars? Est-ce qu'il leur reste de l'aviation?
Alors, en ce qui concerne les blindés, ils ont subi des pertes très importantes, comme les Ukrainiens également, alors moins en proportion, toute proportion gardée. Les deux camps ont subi, lors de cette première semaine de combat, des pertes très importantes, mais bien évidemment, les Russes ont encore des réserves en blindés très intéressantes, qu'ils sont en train de déployer, ils sont en train de rameuter. Il y a des mouvements d'unités de l'autre côté de l'Oural qui traversent l'Oural vers l'ouest, donc vers éventuellement le théâtre d'opération ukrainien. Et en ce sens de l'aviation, la supériorité aérienne est très contestée pour les Russes et les sources américaines laissent penser qu'ils sont loin d'avoir utilisé toute leur aviation. Le vrai sujet, c'est combien d'avions restent-ils de manière en état de fonctionner du côté ukrainien pour qu'ils puissent continuer à contester cette supériorité aérienne.
Les Ukrainiens se battent bien pour vous ?
Je ne vais pas me prononcer sur qui se bat bien ou qui se bat mal. Je note simplement que le moral que montré par les unités ukrainiennes, dont le commandement a été très décentralisé en prévision de cyberattaques et d'attaques beaucoup plus importantes que celles qui se sont effectivement déroulées de la part des Russes lors des premières 24 heures de l'invasion. En face, vous avez aussi des unités qui se délitent. Mais dans les deux cas, si vous voulez, Frédéric, c'est à quel moment le moral mesure de ces unités va survenir, quel est le camp qui va craquer le premier entre l'armée russe qui a ses faiblesses, ses fragilités et qui a surtout une fragilité très forte qui est le soutien de la société russe et du pays aux agissements de Vladimir Poutine, et de l'autre côté le moral des unités ukrainiennes qui n'est pas non plus irrésistible et infini hein, face à la puissance et aux drames humains qui vont être déclenchés par notamment ces bombardements de villes qui sont déjà en cours sur un certain nombre de villes du pays.
Sur le plan militaire, toujours Cédric Mas, la Russie peut-elle occuper toute l'Ukraine?
Alors, Numériquement, elle en a les moyens. Maintenant, si l'Ukraine résiste, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, la réponse est non. À ce jour, il faudrait déployer une masse d'hommes beaucoup plus importante encore que celle qui est engagée, dès lors que le pays résiste et qu'une guérilla, par exemple, se mettra en place sur les zones qui sont déjà occupées. Mais est-ce que c'est réellement l'objectif de Vladimir Poutine ? Ça, c'est la vraie question. Aujourd'hui, est-ce qu'il souhaite vraiment occuper militairement l'Ukraine plutôt que de renverser le pouvoir ukrainien et y installer un pouvoir ami, par exemple, qui se chargera de cette occupation, entre guillemets, à sa place ?
La Russie pourrait occuper le sud du pays, toute la façade sud sur la mer d'Azov et la mer Noire.
Alors, en effet, cela semble être un des objectifs, puisque c'est là où un des efforts importants s'est déroulé. Quand vous regardez sur les cartes, la progression à partir des unités qui étaient stationnées en Crimée est très importante. Mariupol, port stratégique sur la mer d'Azov, est encerclé aujourd'hui. Et de l'autre côté, Odessa est menacée, mais l'avance marque le pas vers l'ouest et Odessa. Donc, il faut suivre les prochains jours, les prochaines opérations qui seront, je le répète, soumises notamment aux évolutions météorologiques.
Il y a eu les Russes se sont emparés de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine, Zaporijjia. Il n'y a pas eu de fuite, bien qu'il y ait eu des tirs autour de la centrale, mais il n'y a pas eu de fuite radioactive. En quoi c'est important cette prise ?
Alors, du point de vue militaire, c'est une des sources d'approvisionnement en électricité du camp ennemi. Donc, à partir du moment où vous la contrôlez, vous pouvez éventuellement, je ne suis pas un technicien expert de la technologie nucléaire, mais je pense que vous pouvez interrompre les livraisons d'électricité vers toute la zone qui était approvisionnée en électricité grâce à cette centrale. Et les coupures d'électricité, la coupure d'un approvisionnement en réseau électrique, ça nécessite d'utiliser d'autres équipements qui sont très consommateurs en carburant et qui sont beaucoup plus fragiles. Donc essayer de faire marcher un hôpital de campagne, un état-major, voire même simplement des systèmes de chauffage pour les civils coincés dans des villes alors qu'il y a une vague de froid qui arrive, sans électricité et simplement avec des groupes électrogènes, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, en effet, c'est un impact très important pour dégrader la qualité de vie des Ukrainiens, donc altérer leur morale et leur volonté de résistance, et aussi pour priver la force ennemie d'un approvisionnement électrique beaucoup plus sûr que ce qu'il est aujourd'hui.
On est au 10e jour de la guerre. Kiev n'est pas tombé. Est-ce que c'est normal ?
Alors, Kiev, ils ont tenté un coup de force aéroporté le premier jour qui a échoué. À partir de ce moment-là, moi je retournerai les choses en disant ils sont déjà aux portes de Kiev au bout de 10 jours de combat. On est dans une avance qui a été très rapide. En réalité, ils ont arrêté leur avance aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont aux portes de Kiev avec des forces en lien avec leur base arrière au Bélarus et au sol et en masse, en nombre. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté ? Alors officiellement, la Russie affirme que c'est pour laisser la place à des pourparlers. Quand on voit qu'elle progresse partout ailleurs, on peut en douter. En réalité, il y a des problématiques de ravitaillement, des problématiques logistiques, et puis aussi une résistance beaucoup plus forte aux abords de Kiev, puisqu'il y a plusieurs villes qui ont déjà changé, Frédéric, plusieurs fois de main. Vous avez des villes dans la banlieue de Kiev qui ont été prises et reprises à plusieurs reprises ces derniers jours, donc il y a des combats très intenses autour de Kiev, et c'est surtout la zone dans laquelle l'aviation ukrainienne, les forces aériennes ukrainiennes s'engagent encore massivement. C'est là où elles font l'effort principal, que ce soit avec les quelques appareils qu'ils ont encore disponibles et surtout les drones qu'ils utilisent avec une grande efficacité.
Merci beaucoup Cédric Mas d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Mathieu Sapin. Il est auteur de bande dessinée et c'est l'un des historiographes d'Emmanuel Macron.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Mathieu Sapin.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Auteur de bande dessinée à succès, devenu historiographe de nos présidents de la République, comme Racine l'était devenu pour Louis XIV. Dans Campagne présidentielle et dans Le Château, vous suiviez François Hollande. Dans Comédie française, c'était Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous sortez chez Zadig, 12 voyages présidentiels, c'est le titre, au cours desquels vous avez suivi Emmanuel Macron de Verdun à l'île de la Réunion. On pourrait en conclure que le pouvoir vous fascine, mais pas tellement, j'ai l'impression qu'il vous amuse.
Si je suis honnête, il y a aussi une part de fascination. Mais j'essaie de combattre ça quand même. Et surtout d'observer avec le plus de distance possible. Enfin, en étant le plus près possible, mais avec le plus de recul possible ce théâtre politique. Ouais.
Vous appartenez à une tendance forte aujourd'hui, la bande dessinée du réel. Vous pratiquez le reportage. Vous n'avez pas suivi seulement des présidents de la République. Vous avez également suivi le tournage du premier film de Johann Spahr, Gainsbourg, vie héroïque. Vous avez fait ensuite le journal d'un journal en passant 6 mois dans les coulisses du quotidien Libération. Et il y a eu aussi Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. Vous aimez bien être le témoin comme ça.
J'adore ça. C'est vraiment... Et puis pour moi, c'est un privilège parce que en tant que dessinateur, on est plutôt... c'est un métier assez solitaire où on est dans son atelier. C'est pas qu'on s'ennuie, mais on est un peu avec soi-même. Et en faisant des reportages, comme vous le dites, en BD, on est témoin direct et on vit des aventures. Moi, j'ai l'impression d'être comme Tintin quand je vais accompagner un président sur une île... improbable, là, je pense à dans le bouquin, il y a l'île Glorieuse, par exemple, dans le canal du Mozambique, ou quand j'accompagne Depardieu en Azerbaïdjan, ou quoi, c'est.
Vous êtes Tintin ou vous êtes Milou?
Je suis un mélange des deux.
J'ai l'impression qu'on ne s'intéresse plus aux événements, qu'on s'intéresse aux coulisses aujourd'hui. Au fond, vous avez trouvé un filon, vous êtes dans les coulisses.
C'est vrai que les coulisses, même la télé-réalité, c'est ça aussi.
On montre comment
ça se passe derrière le rideau. Alors oui, je suis très client, très friand de ça. Après, j'aime bien aussi montrer les gens, c'est-à-dire les personnes, les êtres derrière les fonctions. Que ce soit un acteur hyper connu ou un homme politique, j'aime bien montrer la personne qu'il y a derrière.
Au début, lorsque vous suiviez la campagne de François Hollande, c'était il y a 10 ans, on ne vous prenait pas au sérieux, vous faisiez de la bande dessinée, donc on se disait la bande dessinée, ce n'est pas sérieux. Les gens parlaient devant vous, sans se méfier d'ailleurs, oui. Ce qui vous a permis de finir quand même au conseil stratégique de la campagne de François Hollande. Est-ce que c'est encore pareil aujourd'hui?
Le problème que j'ai, c'est que maintenant, je croise des gens qui ont lu mes BD. Donc, je suis identifié, ils me repèrent. Et évidemment, on peut se demander s'ils sont aussi naturels que ça, sachant que je les observe. Après, l'arme que j'ai, c'est que j'hésite pas à passer beaucoup de temps, des semaines, des mois, à observer un sujet. Donc, il y a toujours un moment, vous savez, c'est comme cette émission Striptease.
C'est-à-dire que le début de la télé-réalité, mais la haute couture à l'époque.
Et donc, il restait tellement longtemps qu'au bout d'un moment, le naturel revient. Et là, on peut trouver des choses intéressantes à raconter.
Mais à La Réunion, par exemple, vous vous retrouvez à table avec Emmanuel Macron alors qu'il y a des manifs autour de la préfecture. Vous entendez les sirènes, les tirs de fusée. Mais à part ce moment-là précis, dans ces voyages officiels, vous êtes souvent cantonné avec les journalistes qui sont d'ailleurs devenus des personnages de votre récit, au même titre qu'Emmanuel Macron et son entourage. Est-ce que ça vous en souffrez du fait qu'en vous cantonnant derrière le cordon des journalistes, ça a l'air de vouloir dire qu'on se méfie un petit peu de vous.
C'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Et alors après, oui, il y a eu quelques rares moments où j'ai eu un accès plus privilégié, mais sinon, souvent, je suis comme vous le dites, comme les journalistes. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien montrer l'intégralité de la scène, et donc les journalistes font partie de cette scène, puisqu'ils occupent systématiquement, enfin, ils suivent systématiquement les déplacements, et donc ils sont là eux aussi. Et surtout, ils sont pour moi une source précieuse de renseignements parce qu'ils ont une lecture que je ne vais pas forcément avoir.
Oui, au fond, ils font les sous-titres.
Oui, là, exactement.
De ce qui est en train de se passer ou
exactement.
De ce qui se joue. Quel contrat avez-vous passé avec l'Élysée? Vous pouvez tout raconter ou ce qui est off doit rester off?
Non, ouais, j'ai absolument pas de... Il n'y a pas d'embargo. Il y a juste que là, en ce moment précis, au moment où on se parle, je suis en train de travailler sur une BD sur la présidentielle. Et donc là, oui, le contrat, c'est que la BD sort après. Donc,
l'album, vous voulez
l'album,
dire.
L'album sur la présidentielle va sortir après, en mai. On est six auteurs de BD à faire ce travail-là. On suit chacun un ou plusieurs candidats. Et donc, le contrat qu'on a avec les candidats, c'est qu'évidemment, tout ce qu'on raconte sera raconté après la présidentielle. Donc, il y a un embargo temporel. Quoi.
Au fond, la campagne présidentielle, c'est devenu un genre en littérature, en bande dessinée.
Au cinéma.
Au cinéma, maintenant. Vous y avez contribué. Oui. Vous avez réalisé un film intitulé Le Poulain.
C'est très français. C'est très français, à tel point d'ailleurs qu'il paraît que c'est suivi même de l'étranger. La campagne présidentielle française est suivie dans les pays limitrophes parce qu'il n'y a pas ça tellement dans les autres pays, en tout cas en Europe. Cette espèce de course à l'échalote pour obtenir le poste donc de président de la République, qui est le poste le plus éminent finalement, si on parle ne serait-ce que du continent européen.
On sait maintenant qu'Emmanuel Macron est candidat, si tant est qu'on en doutait.
Oui.
Vous suivez qui, vous, pendant cette campagne-là?
Moi, je suis justement le candidat Macron. Donc voilà, depuis hier, ça y est, je suis au taquet, mais bon, j'ai quand même commencé bien avant.
On fait une pause, Mathieu Sapin, et puis vous allez nous raconter ce que c'est qu'un voyage présidentiel.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Mathieu Sapin, auteur de bande dessinée, qui publie 12 voyages présidentiels aux éditions Zadig. Ces 12 voyages présidentiels auxquels vous avez été conviés sont tous déroulés en territoire français. Vous êtes allé jusqu'à La Réunion, à Mayotte. On ne vous emmène pas au G20, hein, ni en Argentine, ni en Afrique. Pourquoi ?
Mais tout simplement parce que c'est donc les éditions Zadig. Zadig, c'est une revue trimestrielle dont le propos est de parler de la France sous toutes ses coutures.
Donc ces 12 voyages ont déjà été prépubliés dans cette revue.
Voilà, ils ont été prépubliés depuis 4 ans dans cette revue. Et donc le cahier des charges, c'était des déplacements présidentiels en France, enfin sur territoire français, donc
en
Outre-mer
France,
aussi.
En Outre-mer comprise. Alors ces déplacements, à quoi servent-ils exactement? Ça produit beaucoup d'agitation quand le président de la République arrive, on dirait une rockstar en tournée, avec en plus parfois des tireurs d'élite sur les toits, mais on a l'impression que c'est juste pour faire joli, pour faire un sujet du journal télévisé, pour que tous les Français aient l'impression et la certitude même que le président s'occupe d'eux. Est-ce que c'est ça ?
C'est souvent un emballage, un déplacement. C'est, par exemple, pour accompagner une nouvelle mesure, par exemple sur l'allongement du congé paternité, le président va faire un déplacement et va convoquer une espèce de réunion avec des personnes concernées par la mesure en question et une déclaration à la presse. Et donc c'est une séquence qui est mise en scène. Et moi, j'essaye dans cette BD de montrer, de décortiquer, de montrer comment cette séquence est fabriquée. Et puis parfois, il y a des imprévus. Mais souvent, tout est très scénarisé. Ouais.
Et justement, parce que c'est scénarisé, parce qu'on voit bien que c'est très bien organisé et que le retenti de tout ça est primordial. Il faut savoir, est-ce que la télévision va en parler? On se dit que ce n'est pas tout à fait authentique.
Alors ça, oui, c'est ça aussi qui me fascine. C'est à quel point tout ça est fabriqué. Et il y a aussi, alors, de la part de l'Élysée, une espèce de volonté. Ils veulent avoir certaines photos. Et donc, c'est très contraint quand on est photographe, quand on est rédacteur ou quoi. On ne peut pas être partout. Il y a vraiment des moments. Tout est circonscrit. Il y a des limites, des cordons, etc.
Ce sont eux qui choisissent très souvent les angles de vue, au fond.
Voilà. Et donc ça met en rogne évidemment beaucoup les journalistes et les preneurs d'images. Donc ça, je le raconte. Mais des fois, ça ne se passe pas comme ils le veulent. Et puis souvent, si on parle des photographes, ils arrivent quand même à trouver un angle, quelque chose qui n'était pas au programme. Ouais.
Mais Emmanuel Macron, comment est-il à ce moment-là? On sait qu'il aime beaucoup être en confrontation avec les gens. Est-ce qu'il est sur le pont constamment?
C'est très curieux. Moi, en tout cas, ce que j'ai noté, c'est que j'ai l'impression, et ça je le dis dans la BD, qu'il a l'air d'adorer ce qu'il fait. On sent que c'est quelqu'un qui il s'éclate, quoi. Il s'éclate. C'est terrible de dire ça, mais même en cette période très, très cruciale et effrayante qu'on est en train de vivre, on sent qu'il est pleinement investi et qu'il vit sa meilleure vie. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Alors, je pense par exemple à la séquence avec les intellectuels à l'Élysée.
Pendant le grand débat.
Voilà, le grand débat qui a duré 8 heures. C'était un truc incroyable. Ça durait jusqu'à 3 heures du mat. Les gens n'en pouvaient plus.
Vous la racontez aussi cette nuit-là.
Voilà. Et donc, lui, il était à fond, quoi. Il s'éclatait, il était là, ravi d'être là et de faire ce qu'il fait.
Il faut dire qu'il parlait beaucoup, hein, à la différence des autres.
Oui, cette scène est complètement dingo, hein, quand on y pense, parce qu'il y avait 60 intellectuels qui venaient chacun à tour de rôle exprimer un avis sur une spécialité hyper précise, la science cognitive, la sociologie, la fission de l'atome ou que sais-je. Et lui, à chacun, il répondait de façon détaillée. C'est comme si, dans le cadre des Jeux Olympiques, il allait se mesurer au lanceur de javelot, au coureur de 100 mètres ou quoi. Mais bon, il kiffe, comme on dit.
Mais bon, là, c'était un peu spécial la plupart du temps. Les voyages, les déplacements présidentiels que vous racontez, ils se retrouvent au contact du préfet, d'une entreprise, des gens qui travaillent dans cette entreprise ou tout simplement des Français qui sont venus voir. Mais qu'est-ce qu'ils voient de la France exactement, vrai ? Qu'est-ce qu'ils voient des Français ? Qu'est-ce qu'on voit des Français quand on est président de la République ?
Ça fait l'objet d'une discussion que j'ai à la fin de l'album. Je raconte en BD une discussion que j'ai avec François-Xavier Bourmeau qui suit l'Élysée depuis longtemps. Même avant, il suivait Emmanuel Macron pour le Figaro déjà quand il était ministre. Donc il connaît bien le personnage. Et il m'expliquait que ces déplacements présidentiels, finalement, le président, il voit une espèce de... ce qu'il appelle une France Potemkin. C'est une France un peu artificielle. C'est-à-dire
comme
que
les villages Potemkin que villages visitait Potemkin. Catherine II de Russie.
Voilà, exactement. Et donc, avec des... tout a été séquencé, fabriqué, préparé... les gens ont été quand même sélectionnés. Et donc, il y a une espèce d'impression. Certes, il est sur place. Certes, il sent les choses.
Oui, mais les villages Potemkin, eux, n'existaient pas. Ils avaient été construits quasiment pour que l'impératrice puisse les visiter. Ça n'était quand même pas le cas.
Mais en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le président lui-même ne souhaite pas ça. C'est-à-dire qu'il essaye d'échapper à ça. Souvent, Emmanuel Macron, il essaye de sortir du programme tel qu'il est prévu et d'aller voir les gens. Et il y a cette espèce de rencontre impossible, finalement, entre ce président qui est quand même à l'Élysée, c'est un lieu qui enferme beaucoup. Et donc, le désir de vouloir voir comment c'est dehors, où c'est comme le Truman Show, vous voyez, le film avec Jim Carrey, où donc le personnage se promène dans un décor.
Oui, mais lui ne le sait pas.
Il le découvre. Il le découvre au fur et à mesure.
Il le découvre à la fin. Et comment se comportent les Français quand ils voient le président de la République ?
Il y a quelque chose de très paradoxal, parce qu'on parle... Alors, en plus, moi, je constate ça depuis maintenant le temps que je suis tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est très passionné. Et il y a des gens qui n'aiment pas le président, mais quand ils vont le croiser, ils vont être un peu désarçonnés, un peu impressionnés, et puis finalement, quand même faire un selfie, parce que c'est quand même le président... Et donc, ils peuvent, dans un même moment, passer à des protestations à « j'ai fait un selfie avec le président ». Ça, je l'ai vu. Et sinon, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est cette espèce d'exacerbation des passions avec il y a de la joie aussi. J'ai vu ça à Mayotte, par exemple, des gens qui hurlaient de joie après avoir croisé le président. Mais soit de la haine, carrément. Et c'est, ça aussi, je crois que c'est très français. J'ai pas l'impression que les hommes ou femmes politiques à l'étranger déclenchent autant de réactions.
Peut-être Donald Trump aux États-Unis.
Ouais, en Europe en tout cas.
Jean Racine, avec qui je vous comparais tout à l'heure, qui était devenu, après avoir écrit moult pièces de théâtre, l'historiographe de Louis XIV, avait vraiment l'impression de faire l'histoire, lui. Est-ce que vous avez la même impression, Mathieu Sapin ? Est-ce que tous ces voyages que vous racontez, c'est de l'histoire ? Ou c'est de la petite histoire ?
Non, c'est de la petite histoire, mais c'est quand même de l'histoire. Moi, c'est vrai que depuis 10 ans que je fais je suis à cette fonction, enfin, c'est pas une fonction, mais à cet endroit, j'ai quand même été témoin de choses très, très marquantes. Mais je pense aussi aux attentats où j'étais à l'Élysée au moment des attentats de Charlie ou des choses comme ça. Ça marque, bien sûr. Mais si on reparle de Jean Racine, lui, il était convaincu. C'est-à-dire qu'il était complètement partisan. Pour lui,
Payé par Louis XIV.
Il était payé, mais surtout, il était sincèrement. Je pense que même s'il n'avait pas été payé, il y serait allé aussi, parce qu'il était complètement fasciné. Et il ne faut pas oublier que Louis XIV, c'était le roi du monde à l'époque. C'était vraiment le pays le plus puissant, le roi le plus puissant.
Oui, si on acceptait la Chine, l'Inde, tous les pays qu'on connaissait
vu d'ici, bien sûr.
Et sachant que les provinces unies, à l'époque, les gens qui vivaient en Hollande avaient des revenus qui étaient le double de celui des Français.
En tout cas, du point de vue français,
Français, on était le roi du monde. Merci Mathieu Sapin.
Merci.
Votre bande dessinée s'intitule 12 voyages présidentiels. Ça vient de sortir chez Zadig. On se retrouve dans un instant avec Fishback.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Fishback.
Bonjour tout le monde, salut les auditeurs.
La sortie de votre premier album, À ta merci, en 2017, avait été saluée unanimement par la presse. Je vous avais reçu à cette occasion, d'ailleurs, sur Europe 1. Aujourd'hui sort le deuxième album, Avec les yeux. Est-ce que vous en êtes contente ?
Oh, plutôt, oui, je me suis permis pas mal de choses sur ce disque.
On va écouter tout de suite Masque d'or.
Ça te fait le mal.
On est tout de suite dans l'ambiance, hein, c'est de la disco avec vos copines chanteuses Clara Luciani et Juliette Armanet. Vous avez l'air de vouloir remettre la disco à la mode. C'est une véritable offensive que vous lancez toutes les trois. Pourquoi ?
Bah, on ne s'est pas concerté, mais je pense qu'on a des références en commun. Moi, je pense que, honnêtement, ce que j'ai fait est un peu plus funky que disco. En tout cas, on ne s'interdit rien. On est productrice maintenant, on s'amuse beaucoup surtout.
Les musiciens d'aujourd'hui font souvent la musique qu'on écoutait l'année de leur naissance, mais vous, vous remontez encore plus loin, puisque vous n'étiez pas né à l'époque de la disco. Vous avez la nostalgie de ce que vous n'avez pas connu ?
Pas du tout. Je suis absolument pas nostalgique. Je vais de l'avant. Simplement, je pense que c'est des sons intemporels. C'est des choses qui nous font toujours danser, sourire et nous réunir surtout.
On va écouter un autre extrait. Le morceau s'intitule Nocturne. Il figure également sur ce deuxième album. Alors, vous aimez les nappes de synthétiseur, mais aussi la guitare électrique. Comment expliquez-vous l'appétence encore aujourd'hui pour la guitare électrique ? On aurait pu croire qu'elle allait disparaître. Alors, avec le disco d'abord, mais ensuite avec la vogue du rap et de l'électro.
Oh, mais les modes, elles viennent, elles vont. Et vous savez, pour moi, les guitares électriques, ça sera toujours le truc le plus sexy qui soit. C'est féminin, c'est grandiloquent, c'est comme une autre voix. Impossible, ça peut atteindre des notes qu'on n'attendrait pas avec la voix, donc c'est comme une prolongation comme ça d'une intention vocale en fait.
C'est vrai que c'est féminin, c'est un son assez féminin.
Oui, féminin, joué par des gros bras qui avaient quand même des cheveux longs, des talons, du maquillage, c'est drôle non ?
Oui, c'est vrai. Vous étiez installé à Paris après votre premier album, vous êtes retourné dans les Ardennes, c'est là que vous vous trouvez en ce moment. Pourquoi ? Paris ne vous a pas plu ?
Ah si, j'ai adoré Paris et j'adore y revenir, c'est vraiment chouette. Simplement, pour une musicienne, avoir quand même un paysage sonore plus doux, comme la campagne, c'est vraiment agréable. Et puis, j'aime être proche de ma famille, j'aime les Ardennes, elles sont belles.
Mais vous parlez d'un son doux à la campagne, mais tout ce qu'on vient d'écouter là, c'est pas doux du tout.
Bien sûr, mais justement, le silence, et en tout cas le paysage sonore de la campagne, permet justement de laisser passer toutes les mélodies dans votre esprit, dans vos oreilles. Et c'est là qu'on crée justement un autre décor mental qui est assez sympa. Oh pardon, c'est le marchand de glace qui vient d'arriver.
Ah bon, Fishback, vous avez quitté l'école à 16 ans, je crois, pour vendre des chaussures à Charleville-Mézières. Pourquoi est-ce qu'on arrête l'école ?
Parce qu'on s'ennuie. On arrête l'école parce qu'on s'ennuie, parce qu'on se dit qu'on a peut-être mieux à faire. Alors on est un peu bête. Moi, j'aurais adoré faire des études d'ingénieur ou un truc un peu utile. Je ne sais pas, cartographe, j'adore les cartes. Mais c'était bien, c'était un parcours de vie. Et ce qui compte, on peut arrêter l'école tôt, mais il faut se battre. Et je suis très heureuse de ce parcours.
Ensuite, vous avez fait un CAP d'hôtellerie.
Ouais.
Ça vous a été utile ?
C'était vraiment très intéressant. Vraiment, en un an, j'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses beaucoup plus utiles sur la vraie vie qu'en plusieurs années à l'école. Donc, c'était très enrichissant et je ne regrette pas du tout cette période de ma vie quand j'étais serveuse dans des bistrots, quand j'ai appris auprès de cuisiniers, auprès de gens du métier, de notre tradition française que j'adore, quoi.
C'est un chien qu'on entend derrière vous ?
Oui, parce que lui, il claque. En fait, il est en train d'aboyer le marchand de glace, il est en train de passer devant la rivière, parce que je suis au bord de la rivière, là. Et c'est mon petit chien, Ardan, qui est en train d'aboyer parce qu'il ne veut pas que le marchand de glace vienne, quoi.
On va écouter un autre extrait, c'est la chanson qui s'intitule D'instinct, comme ça vous pouvez parler à votre chien pendant ce temps-là.
Je suis tant de bouche.
Fishback, vous changez de voix presque sur chaque chanson. C'était déjà le cas sur le premier album. Vous avez peur de lasser ?
Oh, peut-être. Peut-être que c'est ça, ou c'est surtout une envie, en tout cas, de ne pas s'ennuyer, de s'explorer soi-même. On parlait de guitare électrique tout à l'heure. Pour moi, la voix, c'est des cordes à part entière et on peut mettre comme des effets, des modulations. Et puis, ça permet aussi d'affirmer un sentiment, de l'exagérer jusqu'au bout avec ce qu'il y a de plus sentimental comme instrument, c'est-à-dire la voix.
Fishback, vous avez une tournée d'une quarantaine de dates qui s'annonce. Est-ce que vous avez beaucoup souffert de ne pas vous produire sur scène depuis 2 ans à cause du Covid ?
Non, j'ai vraiment apprécié d'être en studio, d'être chez moi. Et je dois admettre que j'avais un peu peur d'en monter sur scène. Mais j'ai fait quelques concerts récemment et je me suis dit que c'était bon. C'était surtout bon de retrouver les gens, de retrouver les visages, les sourires, les corps en fait.
Vous serez combien sur scène ?
Oh, le live sera à géométrie variable. Des fois, je serai seule parce que j'aime beaucoup l'intimité d'un solo en scène. Et puis des fois, j'aurai des musiciens, ça dépendra de l'instant, de la salle. Est-ce qu'on sera en extérieur, le jour, la nuit ? En tout cas, j'espère de faire des spectacles qui seront surprenants.
Qui tiendra la guitare électrique ?
Ah, ce sera souvent moi.
Merci Fishback. Votre album s'intitule « Avec les yeux ». Il vient juste de sortir.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin. Tiens, je recevrai le chercheur Jean-Marc Lemaître. Il a de bonnes nouvelles. On pourra tous bientôt vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans, comme Jeanne Calment. Il nous expliquera pourquoi. En attendant, vous avez rendez-vous avec Frédéric Michel et les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Frédéric, quel
Bonjour
programme ?
Bonjour Frédéric. Le programme, on parlera de la guerre en Ukraine. 10 jours déjà, évidemment, de la candidature du président sortant Emmanuel Macron avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney, Frédéric.
Bonne émission.
Merci.